Toujours en compagnie de Romu, ça va Romu?
Oui, bah écoutez, tout va bien.
Hein. On
a été voir un petit masterclass qui était très sympa.
Oui. Et on en parlera un peu plus tout à l'heure parce que franchement, ça vaut le coup d'en discuter un petit peu.
On va en parler tout à l'heure de cette masterclass, mais aujourd'hui, on reçoit aussi Ethan Beaufort et Enzo Maffei. Bonjour Ethan.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bah très bien, et vous?
Voilà, c'est pas la première fois que tu viens au micro de X-Move. Hein. Mm-hmm. Après, tu peux dire es-tu si tu parles à moi, tu dis vous si tu parles à nous tous.
D'accord. Je vais dire vous, comme ça, ce sera plus
général.
Facile. Ça sera facile.
Voilà.
Je vais m'en mêler, ça va être terrible.
Enzo, bonjour. Alors, vous nous présentez deux films. Donc, aujourd'hui, c'est qui a quel film? Il y a Idée Froissée.
C'est à moi.
C'est Ethan. Et donc, je veux juste voir les étoiles.
C'est
Enzo. Alors, Ethan, tu sais qu'on a regardé ton court-métrage. Hein, donc, on l'a vu à l'avance, bien sûr. Et on savait que c'était toi. On a vu le nom. On voyait plus qui tu étais. Et au moment où on a vu une scène avec...
Bah, c'est facile. Hein,
c'est ce que je lui dis.
C'est la machine à écrire.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est... Malgré moi, c'est un peu un gimmick qui revient quand je pense à mes courts-métrages. J'en avais fait... un très long au lycée, il y avait une machine à écrire, c'était pas central mais elle était là. Le précédent film, bon, la machine à écrire qui était diffusée à boîte à images, bon, c'était le cœur du sujet avec Enzo justement qui interprète le stagiaire qui ramène cela sans aucune raison valable. Et là effectivement tout part de cette figure d'écrivain. Donc c'est vrai que malgré moi, la machine à écrire est revenue souvent la même, en plus c'est la même, une Remington jaune. Donc,
c'est ça, mais en fait c'est ta patte, on a senti ta patte, la patte du réalisateur.
C'est vraiment cool, c'était vraiment cool de revoir ça parce que ça nous a replongé même dans ton dernier court-métrage que tu avais posé ici au festival La Boîte à Images. Et pour toi Enzo, je veux juste voir les étoiles. Est-ce que c'est ta première réalisation de court-métrage?
C'est pas ma première réalisation.
Alors on a juste un petit souci de micro. Hein, alors on peut essayer avec l'autre micro sinon.
On va essayer avec celui-là. S'il y a un souci avec un micro, on va essayer avec l'autre.
C'est
juste les aléas du direct, hein, parce que on est là, on entend beaucoup de bruit, donc on revoit les micros. Vas-y.
C'est bon.
Il faut augmenter juste au maximum le gain.
Je crois que c'est sa voix qui ne passe pas au micro.
Vas-y. Encore. Ouais. Encore un autre.
Mais c'est vrai qu'il parle pas, il parle de...
Je suis bon, hein. Oh,
il est parmi nous, ça y est, il est de retour.
On voudrait pas rater... quelques phrases que tu vas nous dire. Donc toi, c'est ta première réalisation, je te demandais.
C'était pas ma première réalisation, j'en ai déjà fait au lycée.
Oui.
J'avais fait deux courts-métrages qui étaient très longs aussi, un peu comme Ethan.
Qu'est-ce que vous appelez long?
Moi c'était un 36 minutes.
36 minutes, oui.
Moi le premier il faisait 25 minutes et le deuxième 42 minutes.
Oh.
Beaucoup plus long.
Ah, c'est presque un téléfilm. Hein.
Ouais, c'est ça.
Pas forcément nécessaire cette longueur, mais
Bah, quand là, on a envie de tout dire.
On a envie de trop dire, même.
Alors, on va parler déjà de vos deux courts-métrages. On va commencer par Idée Froissée. Idée Froissée, donc, dis-nous un peu comment t'es venue cette idée de... En fait, explique-nous un peu ton court-métrage, comment toi, tu l'as fait. Est-ce que tu as pensé à cette idée de papier qu'on retrouve et qui sont un peu les déchets de tout ce qu'on a écrit qui reviennent, c'est ça?
Bah, disons que c'est parti... je devais faire un court-métrage à la base de moins de 5 minutes pour un concours d'école de cinéma. Et donc, en fait, j'avais pas de sujet qui venait. Moi, ça bloque, j'arrive pas à trouver une idée qui me convient jusqu'à ce que j'en trouve une qui fait que je l'écris en 2 semaines. Et donc, malgré moi, j'ai repensé à justement un peu ce syndrome de page blanche que j'avais, que je trouvais pas, et c'était peut-être fin 2023, oui, c'est ça, fin 2023, que je me suis dit, tiens, je pourrais partir de cet écrivain qui a pas forcément d'idée, et puis j'avais envie de faire une narration un peu différente, parce que d'habitude, j'ai fait des films plutôt comiques, et là, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus sérieux, pas dans le sens que, voilà, c'est plus valorisant, c'était pas forcément cette optique, mais disons... tester quelque chose que j'avais pas eu l'occasion vraiment de réaliser et quelque chose d'un peu plus flou narrativement. Donc moi quand j'en parle souvent je parle de Lynch, pas dans le sens que c'est un film qui pourrait se rapporter forcément à Lynch, mais dans le sens que je vois sa narration comme une sorte de voyage à travers plein d'événements qui sont difficiles à lier, mais il y a toujours un petit fil rouge qui fait qu'on arrive quand même
conducteur
à
comme
se
ça
rattacher.
Qui...
Voilà, c'est ça. Notamment un personnage, par exemple. Et donc, il y a cette idée voilà, d'avoir une narration parfois éclatée, mais avec un fil rouge. Et ce fil rouge, en l'occurrence, c'est le personnage qu'incarne Enzo, donc Lucien, qui est un scénariste qui était renommé, mais qui n'a plus aucune idée. Et donc, les idées froissées font référence à ces boulettes de papier, tous ces brouillons froissés qui sont des idées qu'il avait, mais qu'il n'arrive pas à exploiter.
Qu'il a jeté, quoi.
C'est ça, tout à fait.
Et ces idées-là viennent le hanter, parce que quelque part, elles sont jouées par des des personnages qui viennent parler avec lui. C'est tous ces personnages-là qui étaient dans des livres et qu'on a mis dans le scénario qu'on a mis de côté, c'est ça?
Tout à fait, c'était exactement ça. Donc cette boulette de papier notamment qu'il reçoit au début, la première qui va démarrer ces événements, fait référence à l'inspecteur qu'il va rencontrer juste après, au milieu de nulle part. Donc on a beaucoup utilisé cette atmosphère nocturne qui rappelle les rêves bien sûr, mais qui permet aussi d'avoir des lieux indéterminés. Mmh. Et c'était justement le but, de voyager dans une sorte de songe. Alors le but n'était pas de faire un film qui soit, en fait tout n'était qu'un rêve. Oui. Le but c'était vraiment qu'il ait fait ce voyage comme le suggère ensuite la fin du film.
D'accord.
Moi j'ai une question. Oui. C'est que ces personnages là justement qui finissent dans la corbeille, est-ce que c'est vraiment des personnages qui sont nés dans ta tête, dans l'ambition d'en faire des vrais personnages de court-métrage ou voire de scénario, ou bien non, pas du tout, ils ont été créés exclusivement pour ce court-métrage-là?
Alors, pour le premier, l'inspecteur Raoul que l'on voit dans le film, c'est totalement ça. C'est même, j'aimerais bien, le sujet de long-métrage, au pluriel, que j'ai pas encore écrit, mais que j'aimerais garder dans le futur. Et pour Kate, qui est une animatrice radio, qui est aussi croisée dans l'extrait, c'est pas tellement elle en soi. J'avais un personnage d'animateur radio qu'on avait déjà exploité dans un de ces moyens métrages qu'on avait fait au lycée, par exemple. Mais en tant que telle, elle n'était pas plus développée. C'était plus voilà, c'était animatrice radio comme un des personnages que j'avais fait, mais je l'ai un peu adapté, on va dire, à une animatrice féminine dans un milieu masculin et qui voilà, qui pourrait être le point de départ, voilà, d'un scénario comme il pouvait, comme Lucien dans le film pourrait avoir, mais qu'il n'a pas continué parce que soit il n'avait pas les idées. Enfin,
c'est quelque part un bloc-notes pour toi, c'est
oui,
ce court-métrage.
Un petit peu de ça,
il y a un peu de ça. Et c'est quelque part aussi, pardon, c'est un peu ta patte aussi, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit aussi que tu n'avais pas d'idée, puis tout d'un coup, quand l'idée arrive, tu es quelqu'un qui aime bien travailler dans l'urgence, on dirait.
Oui, c'est ça. Je dirais pas urgence parce que quand même pour ce film on l'a tourné très rapidement puisqu'on était encore au BTS cinéma de Luxembourg. Mmh. Et donc là on était à la période juste avant les stages, j'avais prévu, ça devait tourner sur 2 jours, donc on a pu tourner ces 2 jours et on a eu le temps de la post-production. Donc je dirais pas travailler dans l'urgence, mais c'est simplement que dès que j'ai une bonne idée, je crois que c'est John Carpenter qui marchait comme ça, genre qu'il avait dit que Halloween il a écrit en je sais pas quelques semaines ou très rapidement. Oui. En tout cas c'est plus voilà, je trouve pas la bonne idée, mais dès que je l'ai, en général je sais que ça match et je vais tout de suite vite écrire et vite arriver à une version qui me plaît.
C'est vraiment quand une voiture ça cale, mais quand ça démarre c'est parti.
Oui, c'est ça, voilà.
Après il faut trouver l'équipe qui va tourner avec toi, par contre.
Tout à fait. Ben, pour le coup là on était dans le BTS de Luxembourg, donc on avait toute l'équipe globalement qui est quasiment exclusivement composée de justement de
c'est plus facile,
ces personnes.
Hein.
C'est facile, ça. Ouais. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que maintenant on a un petit réseau qu'on a avec Enzo. On connaît pas mal de gens, notamment lui, parce que lui maintenant il travaille vraiment. Moi j'ai continué en études, mais lui il travaille vraiment. Donc on avait quand même. Je savais à qui je pouvais parler du projet et avec qui je pouvais le travailler, notamment pour l'image. C'était avec Enzo bien sûr, qui s'est occupé aussi des lumières, mais on avait aussi François qui était aussi dans l'équipe caméra, ou David qui avait aussi été le directeur de la photographie. Et on avait beaucoup discuté avant de comment on allait rendre les scènes, comment on allait éclairer tout ça. Donc il y avait vraiment une phase de pré-production qu'on pouvait faire bien. Et je l'ai vraiment ressenti, comparé à Machine à écrire où c'était plus rock'n'roll, disons, la production de ce film. Ici, on a vraiment bien préparé les choses et c'est vraiment allé super fluidement dans le tournage et même en post-production. Ça, c'est, voilà.
C'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs quand on l'a vu. Hein.
Mais oui.
Même dans les effets, on va dire, spéciaux, tous les YouTube, ça, on voit que c'était vraiment travaillé.
Oui, non, c'est ça. Donc, on avait vraiment pris le temps, je ne saurais pas vous dire, mais montage, c'est à l'acide parce que je voyais comment devait être agencé ces séquences et comment les relier. Et donc ensuite Enzo a eu tout le temps pour faire un étalonnage excellent que j'adore toujours. Et puis moi j'en ai profité pour faire la post-production son et j'ai même profité pour demander à un professionnel que l'on connaissait de notre BTS pour écouter le mix dans un studio pour voir comment ça rendait.
Comme quoi le processus de la page blanche c'est un processus qui est quasi bénéfique, obligatoire pour avoir quelque chose de positif aussi, hein.
Non, tout à fait, c'est vrai que parfois j'ai un petit peu ce côté parfois perfectionniste même dans ce que je fais, c'est-à-dire que ça me convient pas, donc je prendrai même pas la peine de le faire en fait. Mais quand je sens qu'il y a le potentiel, Là, disons qu'on va vite enchaîner pour que ça puisse être produit.
Et comment tu le vis, toi, Enzo, d'être comédien comme ça, quand tu es aussi un réalisateur quelque part ? T'as pas envie de tout changer, de mettre ça à ta patte, ou tu arrives à faire bien de sectionner entre le comédien que tu es et le réalisateur ?
Ah oui, bien sûr. En plus, avec Ethan, on s'entend très bien. Du coup, c'est assez fluide. Je m'impose pas non plus trop à vouloir faire mes propres choix artistiques. Et puis, j'aimais beaucoup le projet d'Ethan. Donc, ouais, j'ai bien réussi à séparer les deux.
Il te laisse de temps en temps en freelance, si t'es, vas-y, t'as une bonne idée, vas-y, on la prend.
Ouais, mais ouais. Aussi pour les lumières, ça s'est super bien passé parce que on avait beaucoup discuté en amont avec Ethan, et puis aussi il m'a laissé un peu carte blanche pour faire les éclairages et l'étalonnage. Du coup, ça s'est passé hyper fluidement.
Ouais, il fait confiance au domaine de compétences de chacun sur le plateau, quoi.
C'est ce que j'allais dire exactement, parce que moi je suis pas du tout un gars de la lumière, moi je suis un gars du son, donc c'est pour ça que ces réunions de pré-production, on parlait de la lumière, qu'on pouvait éclairer pour donner. Je savais qu'est-ce que ça devait rendre, j'avais un peu mes idées, mais je voulais, voilà. Niveau matériel, moi, je suis beaucoup moins spécialisé que Enzo et puis les autres membres de mon BTS. Donc moi, je lui faisais confiance là-dessus parce qu'on se comprenait, on avait déjà, ça fait maintenant longtemps, maintenant qu'on se connaît et qu'on fait des projets ensemble. Donc voilà, je pouvais déléguer. C'est vraiment là, je suis content parce qu'on a, j'ai pu me sentir délégué des tâches et ça s'est très bien passé et ça rendait ce qu'il fallait pour le film.
Donc il y en a un qui travaille pour le son pour l'autre et l'autre qui travaille pour la lumière pour l'autre. C'est ça.
Excuse-moi, juste avant qu'on passe donc,
à Enzo, oui.
À Enzo, tes projets, donc, parce que tu as dit que justement Enzo, lui, maintenant travaillait, toi, tu en es où maintenant ?
Alors, actuellement, ça fait quelques jours que j'ai achevé mes partiels de licence à Paris, donc une troisième année d'études après mon BTS. Et pour la suite, je ne sais pas encore trop. Je pense continuer les études et en parallèle reprendre le conservatoire de théâtre. Parce que acteur, c'est quelque chose. Bon, quand on voit des Français, voilà, j'ai toujours voulu jouer dedans et j'adore toujours jouer. Et ça fait un an que j'ai arrêté de jouer avec une troupe qui était près de Gorcy puis Lexi ensuite. Donc ça faisait 7 ans, 8 ans, je pense, facilement. Et donc là, j'aimerais bien reprendre ça parce que c'est vraiment comédien qui, je pense, me plaît le plus.
C'est marrant parce que souvent, le comédien veut devenir réalisateur. Et là, en fait, c'est le contraire.
Bah, disons que j'aime bien les deux, en fait. C'est juste que là, on a eu l'occasion d'études cinématographiques pratiques. Donc j'ai pu réaliser et j'étais content de ça parce que même... C'était l'occasion de découvrir un peu ce que je pouvais faire et puis d'apprendre beaucoup. Mais vraiment, comédien, c'est quelque chose qui me manque et que j'aimerais peut-être pratiquer plus. Donc je fais ça en parallèle, de peut-être continuer en master certainement, et on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je suis sur Paris, mais je pense qu'à terme, je resterai quand même dans la région parce que c'est là que j'ai mes contacts, c'est là que je m'y sens bien, parce que Paris, c'est quand même une autre ambiance.
Ah oui.
Complètement. En un an, j'ai déjà pu le voir.
Ouais, mais le travail est là-bas, hein, en général, non ? Dans le cinéma ?
Oui, certes. Hein ? L'avantage, c'est qu'après, quand on connaît plusieurs endroits, c'est pas exclu de travailler partout. Et puis, quand il s'agit de post-production son, ils font un bon studio. Voilà, ça, c'est...
Ça, c'est vrai.
C'est ça l'important, ça, c'est que ce soit à Pétaouchnok ou alors à Paris ou à Luxembourg ou à je sais pas quelle bled paumée, c'est pas un problème, on va dire.
C'est ce que nous disait le parrain de l'année dernière, hein. Lui il travaillait beaucoup la musique et le son, il avait son studio à la maison et il travaillait avec tout le monde en France, à l'étranger. Ouais.
Non, c'est ça, donc c'est l'avantage. Donc moi après ça me ferait pas peur de me déplacer, je suis pas attaché à une région particulière, mais.
T'as ta zone de confort ici, on va dire.
On va dire, c'est ça. Ouais. On va dire que pour résumer, c'est ça.
Il a son raison.
Enzo, toi, c'est je veux juste voir les étoiles.
Oui.
C'est un sujet quand même que tu traites. C'est un sujet quand même qui peut toucher beaucoup de monde. C'est un sujet qui est, on va dire, sensible. Toi, tu as choisi ce thème-là parce que ça te parle, parce que tu vis la chose.
Parce que j'ai vécu la chose. Oui. En fait, le film est un peu un hommage à mon grand-père qui était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et du coup, moi, c'était une manière pour moi en fait de lui rendre hommage. Il y a plein d'éléments dans le film qui sont un peu adaptés de la réalité, un petit peu modifiés, un petit peu changés, mais toujours inspirés de l'histoire aussi que j'ai eue avec mon grand-père, de la relation que j'ai eue avec lui. Et,
Moi j'ai trouvé ce court-métrage très émouvant. Quand on l'a regardé, on a été vraiment ému. Hein. C'est vrai, c'est des sujets qui touchent réellement. C'est très très dur dans un sujet qui peut toucher la sensibilité des gens d'en faire un court-métrage. Je trouve que tu l'as super bien
traité. D'autant plus que le comédien qui joue la personne âgée, le grand-père, bah, on l'a trouvé vraiment
excellent.
Ouais, excellent. Il est très très bon.
C'était un de nos professeurs, c'était notre professeur de photographie en fait BTS, et je trouvais qu'il avait vraiment le visage que j'imaginais en fait pour le rôle. Et ouais, j'étais.
Mais est-ce que tu t'es un petit peu renseigné pour savoir un peu ce que
il a vécu?
ce que pouvait ressentir un Alzheimer, parce qu'à un moment tu imagines tout
comme nous on voit une pluie d'étoiles, c'est pas la même chose que lui.
Oui.
C'est ça.
Bah en fait
tu t'es renseigné
justement vu que mon grand-père avait la maladie d'Alzheimer, je savais un petit peu, et puis aussi ma famille se renseignait un petit peu sur ça. Et je me suis inspiré aussi d'autres œuvres. Enfin, j'ai regardé pour prendre comme comparaison d'autres œuvres qui traitaient du sujet. Il y a notamment un album de musique qui s'appelle Everywhere at the End of Time, qui c'est la musique en fait, mais qui évolue comme si c'était écouté par un malade d'Alzheimer. Et du coup, l'album dure 6 heures, je crois, quelque chose comme ça. C'est très très long. Et en fait, la musique devient de plus en plus chaotique au fur et à mesure, comme la psyché d'un malade d'Alzheimer qui évolue selon le stade de la maladie.
Il y a comme une dégradation,
comme une dégradation
musicale.
Et après, on en a discuté avec mon chef opérateur, François, du coup, pour se demander comment mettre en image les hallucinations, les pertes de repères sonores, visuels que pouvait avoir un malade d'Alzheimer. Et c'est comme ça que nous est venue aussi cette idée de mettre en lumière littéralement les impacts, les effets de la maladie d'Alzheimer sur la psyché.
Les couleurs changeantes en fonction des émotions qu'il vit.
Ouais. Oui, mais on l'a bien vu.
Qui était très très intéressante.
Je voulais savoir comment ça a été perçu, comme c'est quand même une histoire qui te touche personnellement. Comment ça a été perçu par ta famille?
Ah bah, ils étaient très émus.
Oui, ils ont été pour.
Ah oui, ils étaient vachement pour. Ils étaient très émus. Ça a fait pleurer ma mère, évidemment.
Bien sûr.
Et elle était très contente, elle était très fière. D'ailleurs, elle m'a beaucoup aidé parce que c'est elle qui a fait toute la régie, en fait, sur le film. Elle a fait à manger pour tous les jours de tournage. Elle nous a accompagnés, transportés et tout. Donc, c'était... Et puis, il y a aussi mon petit cousin que j'ai demandé de jouer dedans. On voit un enfant à un moment avec le grand-père. Ouais. Et j'ai demandé à mon petit cousin de venir jouer.
Je pense que ce genre de film, on peut peut-être même le retrouver dans des hôpitaux, justement spécialisés, pour montrer, justement pour amener aux gens, peut-être les encourager. Puis non, je sais pas.
Parce que quand on résume un peu, c'est quelque part, c'est le petit-fils qui vient lui rendre visite. C'est le petit-fils qui vient réaliser le dernier souhait d'un homme qui est en train de partir et qui veut le faire avant qu'il parte, puisque quand il arrive à l'hôpital, il est en soins palliatifs. On lui apprend qu'il va être en soins palliatifs. Et quelque part, il le kidnappe. Franchement, j'ai trouvé très très beau, très très beau comme film. J'ai trouvé que tu avais une superbe idée de mettre les couleurs pour les émotions. Et j'ai trouvé très juste comment il a été fait. Il n'a pas été dans l'exagération. Il n'a pas été dans le... Alors qu'il y a du fantastique, quelque part, par le fait de montrer ses hallucinations. Il y a du fantastique, mais on est dans une réalité au niveau de la maladie qui est énorme.
J'ai voulu aussi mettre un petit peu un contraste entre les moments où on est dans la perception du malade et quelques moments où on sort et on est vraiment dans la réalité, comme quand le petit-fils il discute avec son infirmière, etc. Et où là, on a un changement déjà d'éclairage. Enfin, on n'a plus des éclairages aussi fantastiques, expérimentaux, etc. Et on a aussi un changement au niveau de la caméra et tout, pour bien montrer le contraste entre la psyché d'un malade d'Alzheimer et la réalité. Et le défi a été de trouver comment mettre en lumière, comment mettre en image ce qu'un malade d'Alzheimer pouvait ressentir, parce que moi je ne peux pas, je peux juste m'inspirer de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu regarder, etc. Et on a trouvé cette idée avec mon directeur photo.
Et c'est lui qui a trouvé l'histoire de changement de lumière, c'est ça, de changement de...
C'était un peu un travail à deux. Lui, il m'avait proposé en fait de travailler sur le concept de synesthésie, donc c'est-à-dire des lumières, des sons et des couleurs qui sont associés à des sentiments, des goûts, etc. Et moi, je me suis dit, ça pourrait bien aller avec la maladie d'Alzheimer, justement, et mettre des lumières, des ambiances, des éclairages spécifiques adaptés selon l'émotion. Est-ce que la maladie prend le dessus? Donc là, on a cette lumière blanche qui vient dans l'image, comme un peu comme si son esprit était vide, en fait. Et puis quand il y a le petit-fils qui vient, on a cette lumière beaucoup plus douce, beaucoup plus dorée, qui fait référence au plan où il y a un plan avec un coucher de soleil où il a son petit-fils. Oui, oui. C'est le dernier souvenir qu'il a de lui. Et puis on a cette lumière bleutée pour faire référence aux étoiles. Donc
Moi j'ai été touché personnellement.
Cinématographiquement, purin parlant, c'est le fait d'avoir utilisé justement la lumière au lieu d'utiliser le son. En général, 90% des films, quand on veut changer une atmosphère, une ambiance, on envoie une autre bande son qui prend. Et là, c'est très rare que ce soit la lumière justement qui fait le changement d'émotion.
Bah, il y a la lumière, mais aussi Ethan, il a fait un super travail sur le son là-dessus pour.
C'est vrai qu'il y a Ethan.
C'est Ethan qui a fait le travail là-dessus pour changer l'ambiance. C'est un peu un tout, je pense. La lumière, la façon de filmer aussi. Est-ce que la caméra, elle est différente selon les moments. La profondeur de champ est différente aussi.
Et là, c'est Ethan qui t'a proposé ce.
Pour le son.
Ouais.
Oui, bah c'était logique en fait, c'est allé pareil fluidement.
Bah, disons que je suis parti vraiment du visuel d'Enzo qui avait déjà fait ses effets spéciaux, notamment à la fin avec les étoiles ou même les particules filmées de près aussi. Et après j'avais à coller des sons qui pouvaient correspondre avec le déferlement de cette mer d'étoiles. Il y avait un petit peu cette idée de mer d'étoiles. Bon, quand on sait comment c'est fait, ça correspond assez bien. Mais voilà, je suis vraiment parti du visuel en fait. C'est vraiment celui-là qui a dicté le son que je pouvais amener au film sans en faire trop, puisqu'il y a déjà beaucoup qui est fait par l'image et c'est déjà assez impressionnant. Je pense que c'est parce que c'est vraiment aussi ta carte de visite en tant que technicien de la lumière. Donc c'est ça qui était primordial dans le film en effet.
Ah ben, en tout cas c'est une très belle collaboration que vous avez ensemble. J'espère que vous allez la continuer parce que vous faites de belles choses. Et j'espère qu'un jour c'est pour un long métrage.
Oui.
C'est quand même le rêve ultime.
Si un jour, non.
J'ai encore une question, Enzo. Tu es dans le monde professionnel maintenant, c'est ça? Et tu fais quoi dans le monde professionnel?
Moi je travaille en tant que machiniste maintenant et des fois en tant que technicien lumière, mais la plupart du temps en tant que machiniste.
D'accord. Sur des productions, sur des.
Sur des. Oui, des longs métrages, courts métrages. Clip de musique même, à peu près tout. Là j'ai fait un long métrage il y a un mois, même pas, j'étais dessus.
T'as un projet, par contre toi tu as un projet propre sur un long métrage?
Moi non, pour l'instant non.
Non, rien du tout.
Non plus.
Je sais pas, faudrait que j'écrive et peut-être un jour, mais comme ça, pas tout de suite. C'est vraiment pas pour tout de suite.
Eh bien écoutez, Ethan, Enzo, on vous remercie d'être venu au micro de X-Move la radio. Donc nous disons aux auditeurs d'aller voir dès qu'ils le pourront ces deux courts-métrages, donc Idées froissées de Ethan Beaufort et Je veux juste voir les étoiles de Enzo Maffei.
Et on peut les retrouver où, vos courts-métrages?
Alors, moi le mien, il y a peut-être d'autres festivals, donc pour l'instant c'est pas encore disponible, mais pour Enzo...
C'est sur YouTube, sur la chaîne YouTube 2209 Prod.
2209 Prod, voilà, on ira voir tout ce que tu as fait, et j'espère qu'on sera autant enthousiaste que ce dernier court-métrage que tu nous as donné.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.